Si vous avez été témoin d'un ovni, d'un pan, d'un phénomène aérospatial non identifié, vous pouvez vous tourner en France vers un organisme public qui est rattaché au CNES. Ça s'appelle le GEPAN, le groupe d'études et d'information des phénomènes aérospatiaux non identifiés. 20 enquêteurs bénévoles qui sont répartis sur tout le territoire français. Ces enquêteurs, ils vont justement aller interroger les témoins, le voisinage, utiliser des données scientifiques pour essayer d'expliquer ou non le phénomène qui a pu être observé. Ici, nous sommes à Pont-Aven, c'est à peu près à une heure de route de Carnac où on vient de rencontrer André, et on a rendez-vous avec l'un de ses enquêteurs, il s'appelle Antoine Cousin.
Merci. Bon, hop, donc c'est une vieille maison traditionnelle de 1900, comme il y a beaucoup de maisons bretonnes ici.
Génial. Ah, il y a une maison un peu étroite.
Voilà.
Je peux vous demander avant de monter juste ce qu'il y a écrit sur votre mur hein.
Il n'y a point de génie sans un grain de folie, Aristote. Parce qu'en fait, je pense que dans toute recherche, il faut toujours faire preuve à la fois d'innovation, de prospective, d'originalité, et puis un petit peu de folie aussi, quelque part.
Et là, on va vous suivre dans votre bureau. C'est de là que vous travaillez, c'est ça, que vous faites la plupart des enquêtes que vous réalisez pour
oui,
le
GEPAN. Oui, tout à fait. Bon, voilà, bienvenue. Donc... J'ai mes écrans avec tous mes outils ici, informatique.
Vous avez quatre écrans ?
Oui. On travaille sur un logiciel avec un ami et partenaire, François Louange. Et on a tout un tas d'outils intégrés dans ce logiciel qui permettent de faire de l'analyse de photos et de vidéos et de rapprocher éventuellement le phénomène photographié d'un phénomène connu. Donc c'est pour ça que vous avez la collection d'appareils photo qui est là aussi. Donc certains ont une petite histoire. Ça, c'est sur un dossier de 1975. Qui s'est déroulé dans la Meuse, c'est un Asaï Pentax, donc c'est un dossier qui est toujours en cours d'analyse concernant des photographies qui ont été prises par un gendarme à l'époque. Souvent, quand il y a besoin, si vous voulez, de pousser un petit peu l'expertise, on va jusqu'à acheter les appareils photos pour se remettre vraiment dans le bain, dans les circonstances de l'époque. J'ai pas mal avancé sur le dossier, mais il me reste à faire une reconstitution dans les conditions d'éclairage de l'époque. Voilà. Donc il faut que je récupère une pellicule similaire à celle qui avait été utilisée à l'époque et que je me place dans les conditions de luminosité de l'époque pour vraiment bien avoir un rendu le plus proche possible de...
Dernière étape de cette enquête,
voilà,
c'est ça ?
Voilà, c'est la dernière étape de cette enquête.
Et derrière, vous aurez ou pas une explication ?
On aura ou pas une explication et à l'issue, ça pourrait être publié.
Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un peu comment vous travaillez et si vous en êtes d'accord, je vais vous montrer... Le témoignage d'André que nous avons rencontré tout à l'heure.
Ouais, vous l'avez là, le mail ?
Je l'ai ici, tout à fait.
Alors, j'ai fait cette nuit une observation très nette d'un phénomène aérospatial non identifié. Un objet de forme pouvant s'apparenter à une lentille vue par la tranche ou un boomerang arrondi à très faible courbure. Il était de couleur orangée avec des contours luminescents relativement diffus. Là déjà, vous voyez, nous en tant qu'enquêteurs, quand on lit ça, il y a quelques petits indices qui peuvent nous aiguiller. Couleur orangée, ça peut nous orienter déjà vers quelques phénomènes. Je dirais il y a trois choses qui m'aiguillent vers des lanternes thaïlandaises. La couleur orange, typique vraiment des lanternes thaïlandaises. Le fait que les bords soient flous, c'est quelque chose qui revient très souvent dans les témoignages de lanternes thaïlandaises. Des déplacements rectilignes irréguliers.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors, les lanternes thaïlandaises, ce sont des petites montgolfières qui sont éclairées à un petit brûleur, comme une grosse flamme de bougie. Donc, c'est perçu dans le ciel comme des lumières volantes.
Viens voir !
Alors, quand on voit quelque chose d'inconnu dans le ciel,
regarde.
Il faut se dire que notre cerveau n'a pas, en fait, les moyens d'en estimer la distance.
Mais c'est extraordinaire !
Au cours des chaudes nuits estivales, de nombreuses personnes aperçoivent d'étranges formations éclairer le ciel. Qu'il s'agisse de nuées lumineuses ou de triangles qui laissent deviner les contours d'un vaisseau. Après quelques minutes d'observation, elles disparaissent à toute allure, laissant les témoins dans la perplexité la plus totale.
Donc l'hypothèse lanterne, c'est quelque chose que l'enquêteur, dans ces cas-là, peut garder à l'esprit, qui va creuser donc, selon deux axes, en demandant un complément d'informations aux témoins et en faisant lui-même un complément de requête de situation auprès de Météo France pour les vents en altitude, par exemple.
Est-ce que c'est possible, par exemple, de regarder la météo de ce soir-là, si
vous
faisiez l'enquête.
Je passe par le catalogue des produits, je demande les données climatologiques de base, les données horaires. Ici, je rentre la date de l'observation, donc je ne sais plus.
5 juin 2021.
5 juin 2021. Et l'heure ?
Entre 1h15 et 1h30, disait-il.
21, vous voyez, je rentre la date. Ici, ouais. Je mets l'heure. Donc pour les deux stations, vous avez un vent très faible à faible, pas de nuages détectés. C'est important d'avoir une situation météorologique. Pourquoi ? Parce que dans certaines typologies d'observation, il peut y avoir par exemple des projections de faisceaux, de projecteurs au sol sur la base de nuages. On appelle ça des sky rose ou des sky trackers, ça peut être très impressionnant. Vous savez, c'est ces projecteurs qu'utilisent souvent les discothèques ou quand il y a des animations commerciales. Connaître l'orientation et la force du vent, c'est très important pour rapprocher de ce qui peut être comme typologie de phénomène des objets portés par le vent, typiquement des lanternes thaïlandaises, des ballons lumineux LED, des ballons sondes, des cerfs-volants, enfin, etc., tout ce genre de phénomène. En plus, maintenant, avec... depuis quelques temps, quelque chose qui est très bien et qui fonctionne très bien avec Météo en France qu'on a mis en place, c'est l'utilisation des données MyFin, des données AROM. C'est-à-dire qu'on peut avoir auprès de Météo France un état des lieux très précis, à une échelle très très fine, du vent ou de la nébulosité à plein de niveaux d'altitude et à toutes les latitudes et longitudes que l'on souhaite.
Ça fait 10 ans que vous êtes enquêteur au GEPAN. Combien de cas vous avez traité depuis ces 10 années ?
À peu près 500. Ça semble beaucoup. Mais il faut savoir que des fois, le traitement d'un cas prend pas plus qu'une heure, voire une demi-heure.
Comment on réagit quand il y a quelque chose d'inexpliqué ? On se dit qu'on n'a pas encore les outils et les données, ou on se dit « Ah tiens, il y a peut-être quelque chose d'intéressant, ça me donne envie d'aller chercher plus loin ».
C'est tout à fait plausible d'envisager que d'ici quelques années, quelques décennies, on dispose de nouveaux outils, qui ne sont pas connus de maintenant, mais de nouveaux phénomènes qui seraient tout à fait explicables par la physique, la météorologie, voilà.
Mais vous croyez aussi qu'il y a peut-être d'autres explications ?
Alors, c'est possible, oui. C'est possible. Au GEPAN, la porte n'est jamais fermée à toute explication, y compris l'hypothèse extraterrestre. Même si, jusqu'à maintenant, absolument rien ne montre que l'hypothèse extraterrestre est valide, dans le sens visite d'engins et de créatures extraterrestres sur Terre. Bien souvent, très souvent, même je dirais pratiquement tout le temps, un témoin nous contacte parce qu'il ne s'explique pas un phénomène qu'il l'a vu. Ça ne veut pas dire qu'il est inexpliqué. Ça veut dire qu'il observe dans des circonstances particulières qui, pour lui, ne sont pas explicables.
On distingue dans les passionnés d'ufologie ou de Pan ceux qu'on appelle les croyants, c'est-à-dire ceux qui pensent que les extraterrestres nous visitent, et les autres qui, eux, n'y croient pas. Vous me disiez que vous avez un parcours, vous étiez au début un croyant et vous avez changé d'avis. Pourquoi ?
Oui, c'est ça, oui. C'est un petit peu le parcours, je pense, de toutes les personnes qui s'intéressent au Pan ou aux ovnis. C'est d'être attiré par ce côté extraordinaire, merveilleux, hors du commun, comme tout un chacun, on l'est. Hein. Et puis quand on creuse le problème, quand on s'intéresse au sujet, quand on essaie de mener des enquêtes, quand on a un petit peu de recul, on essaie d'avoir du sens critique, quand on est aidé là-dessus, on s'aperçoit que on arrive bien souvent à trouver des explications tout à fait standards et normales aux phénomènes qu'observent les gens. Donc on est un petit peu déçus parce que notre croyance en merveilleux, elle s'effondre un petit peu quelque peu. Mais encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est pas parce que on a une approche plus scientifique qu'on refuse absolument l'hypothèse extraterrestre ou l'hypothèse qu'il y ait d'autres phénomènes inconnus qui se déroulent et dont pour l'instant on ne sait pas expliquer la nature ni la provenance.